On avait vu dans une précédente vidéo que tous les versets que je vous affiche à l'écran, et encore il y en aurait d'autres aussi, sont plus ou moins retirés de nos Bibles aujourd'hui, parce qu'on les lit mais on ne les applique plus, on n'y croit plus, on nous dit que c'est plus pour aujourd'hui. Et on avait expliqué que ça, c'était la véritable guerre que Satan menait contre l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce verset. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est Jésus qui dit ça à la Samaritaine. Donc, on va parler de l'adoration. Et si vous pensez que l'adoration, ben, c'est la louange, et si vous pensez que la louange, c'est la musique, alors je vous invite à plonger avec moi dans l'Écriture pour comprendre ce qu'est une adoration charnelle et pour donc arriver à une adoration en esprit, en vérité. Alors, dans cette vidéo, on aura trois parties. Qu'est-ce que l'adoration ? Qu'est-ce que l'adoration en esprit ? Et une dernière partie qui concernera les églises actuelles qui sont pratiquement toutes en train de revenir à une adoration charnelle. Alors commençons tout de suite. Qu'est-ce que l'adoration ? Dès Genèse 4, nous lisons ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. On voit deux types d'offrandes qui correspondent à deux types d'adoration. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc là, on constate une chose, c'est que une offrande est agréable à Dieu et l'autre, elle ne l'est pas. On peut tout de suite conclure donc que il y a une adoration dont Dieu ne veut pas. Et Ésaïe 1 nous le confirme au verset 11, il nous est dit ceci, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des boucs et des brebis. Quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités, mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. » Et dans Amos 5, verset 23, il nous dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Vous voyez que malgré le fait que les Israélites apportaient à Dieu les offrandes demandées dans la loi du Lévitique, Dieu n'agréait pas ces choses. Il n'en pouvait plus de les supporter, il nous est dit. Alors on va comprendre ce qu'est la véritable adoration que le Seigneur demande. Donc dans Jean au chapitre 4, verset 19, on lit ceci. « Seigneur, lui dit la femme, donc c'est la Samaritaine qui parle à Jésus, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce texte, c'est quand même une clé sur l'adoration. Donc on a ici le terme adorer, proskuneo, qui veut dire baiser la main de quelqu'un en signe de révérence, ou parmi les orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence, dans le Nouveau Testament, par agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Voilà, donc vous voyez, ça vous donne une idée de ce que veut dire ce terme adorer, il veut dire se prosterner en terre, hein, s'abaisser, et pourquoi ? Ben pour marquer l'hommage à la personne, lui rendre hommage, et le respect en signe de son obéissance. Genèse 22,5, « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Ici aussi, on a le verbe adorer, et là, cette fois, on est dans l'Ancien Testament, donc c'est en hébreu, et le terme utilisé, c'est le terme shakar, qui veut dire se courber, se prosterner, abaisser, abattre, se courber, enfin, etc. Et vous voyez donc que c'est le même sens. Hein, ces deux mots, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, en hébreu et en grec, ont le même sens, qui est de s'abaisser, se prosterner. Il y a une correspondance. Et Abraham est allé adorer, mais cela consistait à apporter une offrande à Dieu, et cette offrande était un sacrifice. Donc on voit que c'est pas seulement se prosterner, c'est offrir quelque chose, comme l'ont fait Caïn et Abel, et c'est offrir quoi ? Un sacrifice. Donc adorer Dieu, bibliquement, c'est la Bible qui le définit, c'est se prosterner, s'abaisser pour reconnaître la seigneurie de Dieu, lui rendre hommage, marquer le respect et l'obéissance qu'on lui porte, plus lui apporter une offrande. Et cette offrande est un sacrifice d'une vie. Et c'est bien ça qui nous est enseigné dans l'Ancien Testament. Donc on va voir tout de suite ce qui concerne donc l'Ancien Testament, et après on verra bien sûr ce qui concerne la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Deutéronome 16:16 nous dit « Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se prosterneront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Donc vous voyez, il y a la nécessité d'apporter quelque chose. Et ça, ça nous est répété dans Exode 23:15 et Exode 34:20. Donc c'est quelque chose de constant. Alors pourquoi je vous prends ce texte? Parce qu'il est caractéristique. Trois fois par année, donc il y avait des temps fixés dans l'Ancienne Alliance. Les sabbats, les fêtes, les nouvelles lunes, etc. Dans le lieu qu'il choisira, il y avait donc un lieu fixé, hein, Jérusalem, le temple, hein, ou le tabernacle dans le désert. Et ensuite, donc on ne paraîtra point les mains vides, eh bien il y avait des sacrifices précis à apporter à Dieu. Il y avait les holocaustes, les sacrifices de culpabilité, d'action de grâce, les libations qui étaient des offrandes liquides, des offrandes spécifiques, etc., etc. Vous voyez, tout ça, c'est ce qui composait l'adoration. On venait dans un lieu précis, à des temps fixés, avec des sacrifices précis. Et justement, dans 1 roi 12 du verset 26 à 33, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite il y a des années sur cet épisode dans la description. Eh bien, Jéroboam a instauré un faux culte à l'Éternel. Il a détourné le peuple d'Israël de la véritable adoration que Dieu voulait dans l'Ancienne Alliance. Et ce péché très grave a perduré durant tout le temps des rois d'Israël et il a entraîné la chute du royaume d'Israël. Il n'y a que le royaume de Juda qui a subsisté, le royaume du Sud, hein, tant qu'il a conservé, lui, le vrai culte. Donc il y avait deux cultes, celui des Juifs du royaume de Juda, et puis celui des Samaritains au nord d'Israël, qui était donc ce faux culte. Et la question de la Samaritaine à Jésus, eh bien, elle porte précisément sur ce problème de l'adoration à Samarie ou à Jérusalem. Et là, donc, on voit que Jésus lui a répondu qu'il l'amenait, lui, une nouvelle adoration. Donc je vous remets ce texte. Et il a précisé que cette nouvelle adoration, c'est que Dieu est esprit et qu'il demande de vrais adorateurs. Ça ne veut pas dire que les autres étaient des faux adorateurs, mais que l'Ancienne Alliance était une image de la véritable adoration, mais que maintenant il faut la véritable adoration et que cette adoration, elle est en esprit et en vérité. Donc il faut comprendre ce que c'est qu'en esprit et en vérité. Je vous mets quatre versets. Jean 3, 6 nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». C'est Jésus qui parle, donc il nous dit bien que c'est deux choses distinctes. Jean 3, 12 nous dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Jésus nous dit encore « On va passer du terrestre au céleste. » De l'adoration donc terrestre, avec les sacrifices au temple, à Jérusalem, etc., à une adoration céleste. Et Hébreux 9, 1 nous le confirme, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre, donc c'était bien terrestre. Et Hébreux 9, 10 nous dit, c'est une figure pour le temps actuel. Alors le temps actuel, c'est quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle, c'est le temps du premier siècle où il y avait encore le temple à Jérusalem, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelle imposée seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc là, c'est très clair, Jésus nous a dit, il y a la chair, il y a l'esprit, il y a le terrestre et il y a le céleste, et l'Ancienne Alliance, ben vous voyez bien, c'était le sanctuaire terrestre et qu'il y avait des ordonnances charnelles. Vous retrouvez bien chair, esprit, et terrestre et céleste. Donc Jésus est venu instaurer une nouvelle alliance avec donc une nouvelle adoration. Et c'est ça que nous devons voir maintenant, comprendre maintenant, pour voir si l'adoration que nous avons dans nos assemblées est une véritable adoration céleste. Donc je reviens sur ce mot culte. Qu'est-ce que ça veut dire culte? Beaucoup de chrétiens disent « je vais au culte » et j'y vais le dimanche matin. Donc ce mot culte, là, ici, c'est le terme grec latreia, qui veut dire service ou culte rendu pour louer tout service ou ministère, le service de Dieu. Mais ça veut aussi dire le service et l'adoration de Dieu selon les exigences de la loi lévitique, ou ça veut dire procéder à un service sacré, d'une manière générale. Grosso modo, ça veut dire servir. Quand je pratique un culte à Dieu, ça veut dire que je le sers. Donc vous comprenez déjà que c'est pas nécessairement dans un lieu précis, un jour précis. Je peux servir Dieu toute la semaine. Donc le culte, c'est donc le service que l'on fait pour l'adoration de Dieu. Donc dans l'ancienne alliance, il était terrestre, je l'ai dit, temple à Jérusalem, il y avait des temps fixés, fêtes, sabbats, il y avait des sacrifices, hein, les animaux, les libations, etc. Et dans la nouvelle alliance, il est céleste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le lieu est devenu spirituel, le temps est devenu spirituel, les sacrifices sont devenus spirituels. Et je vous ai marqué les références qu'on va lire juste après. Et ça, vous voyez, c'était déjà dans l'ancienne alliance en filigrane, c'était déjà entrevu. David, dans le psaume 51, en verset 18, il nous dit ceci. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Vous voyez, David, il comprenait que l'adoration extérieure de l'ancienne alliance, c'était pas celle, en fait, que Dieu avait en vue. Dieu avait envie le dedans, le cœur, l'esprit brisé, c'est-à-dire l'esprit humilié, l'esprit qui se prosterne lui-même devant Dieu intérieurement. Et donc, Dieu a d'abord enseigné une adoration terrestre pour nous amener à la véritable adoration, celle qui est céleste. Donc dans Hébreux 8.1, on va voir les caractéristiques de cette adoration céleste. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, donc le Seigneur Jésus, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, où ça ? Dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc le lieu où nous devons adorer aujourd'hui, c'est le tabernacle céleste. Et il est dressé pas par un homme, mais par le Seigneur. Et il est gouverné pas par un sacrificateur terrestre, mais par le souverain sacrificateur lui-même, Jésus-Christ, le juste. Ensuite, Hébreux 4, 9 et 10 nous disent « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Alors, je ne vous ai pas mis tout le chapitre 4, il faudrait lire le chapitre 4 en entier, hein, mais dans ce chapitre, Dieu nous parle du repos dans lequel nous devons nous efforcer d'entrer, il nous est dit. Et donc, ce repos nous montre qu'il n'y a plus un temps terrestre, il n'y a plus des fêtes particulières que nous devons célébrer et un temps particulier pour adorer Dieu. Non, il y a simplement le sabbat de Dieu continuel. Hein, c'est un repos de sabbat, là, que je vous ai mis en jaune, c'est un repos gardé. Gardé dans le sens qu'il est continu. On ne le quitte plus, ce repos. Eh bien, c'est ce temps auquel Dieu nous invite. Et c'est un temps qui est donc continuel. On peut adorer Dieu continuellement en nous présentant où ? Dans le tabernacle céleste. Et enfin, Romains 12, verset 1er nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'offrande est le sacrifice que nous devons apporter à Dieu, offrir vos corps. Voilà ce que c'est. C'est ça le sacrifice. Donc c'est notre vie tout entière, nos corps tout entiers, notre personne tout entière que nous devons apporter à Dieu en sacrifice. Donc le lieu est céleste, le temps est céleste et l'offrande, le sacrifice est céleste. Et vous voyez, on retrouve cette notion de culte. C'est ça, offrir un culte à Dieu. Servir Dieu, c'est offrir son corps. C'est pas venir le dimanche matin dans une réunion qu'on appelle culte. Non. Et culte raisonnable, je suis désolé, c'est une mauvaise traduction. Le terme raisonnable veut dire « logikos » et il veut dire « appartenant au discours ou à la parole », on va y revenir, « appartenant à la raison ou à la logique », ça c'est une seconde traduction, « ce qui est spirituel appartenant à l'esprit ». Vous voyez ? Donc en fait, on pourrait traduire « ce qui sera de votre part un service spirituel ». Vous voyez, le service spirituel, c'est pas de faire l'accueil dans une salle où on vient rendre un culte. Le service spirituel, c'est pas de nettoyer une salle qu'on appelle la salle de culte. Le service spirituel, c'est d'offrir son corps à Dieu. Voilà l'adoration véritable. Jésus est venu nous ouvrir l'accès à l'adoration d'en haut, c'est-à-dire celle qui est basée sur les choses que Dieu a lui-même données et établies, les choses célestes qui proviennent de son œuvre et de son esprit, et pas de ce qu'on voudrait lui apporter. Voilà. Ça, c'est important, parce que les offrandes dans l'Ancien Testament n'étaient pas les offrandes qu'on choisissait nous-mêmes, c'était celles que Dieu avait données. Et le sacrificateur était là pour dire « ton offrande, elle est OK » ou « ton offrande, elle n'est pas OK ». Si j'amenais un chat en sacrifice, le sacrificateur disait « non, non, pas de chat ». Un chien, non, non, pas de chien, on n'offre pas des chiens à Dieu. Voilà. On offre des béliers, des boucs, des brebis, etc., mais pas des chiens. Eh bien, de la même manière, dans l'adoration spirituelle qu'on offre à Dieu aujourd'hui, on n'offre pas n'importe quoi. on ne peut pas offrir n'importe quoi. Regardez, Caïn a donné les fruits de la terre, le fruit donc de son travail et de ses propres œuvres, ce qu'il avait choisi lui. Abel, lui, a donné une vie, qui elle-même, cette vie, venait de Dieu, puisque c'est Dieu qui lui avait donné ce petit animal. Et ce petit animal, bah, c'était la subsistance de son troupeau. Donc il devait, en offrant cet animal, se remettre à Dieu pour sa survie à lui. Voyez ? Donc ces deux offrandes sont extrêmement différentes, je ne vais pas détailler trop, mais c'est extrêmement important. L'adoration en esprit ne consiste pas à apporter à Dieu ce que nous avons choisi, ce qui nous plaît, ce qui nous est agréable. Cela consiste à adorer avec ce que Dieu a donné, ce qui lui est agréable, son Fils. Matthieu 3, verset 17, nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir ». Voyez, c'est ça ce qu'on peut apporter à Dieu, cette adoration qui lui plaît, c'est de lui apporter le sang de son Fils, la reconnaissance de son œuvre glorieuse. On avait un vieux cantique dans le temps qui nous disait « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi ». Voilà ce qu'on pouvait apporter à Dieu. Je n'apporte pas à Dieu mes compétences, ma jolie voix ou que sais-je, ou ma technique. Je n'apporte pas à Dieu mes propres œuvres. J'apporte à Dieu ce qu'il m'a donné. Ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Tout ce qui vient de lui-même. Ainsi, l'adoration en esprit, en vérité, commence par une foi, une confiance en Jésus-Christ. Son œuvre qui nous sauve, son œuvre qui nous a délivrés du péché, sa seigneurie, sa miséricorde, son amour, sa grandeur, etc. J'ai foi dans toutes ces choses. Et cette adoration, elle se poursuit par une foi, dans le sens de l'obéissance, cette fois, à Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même est celui qui a adoré le Père en faisant toute sa volonté. Jean 5, verset 19, nous dit « Jésus reprit la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Vous voyez, mais remplacez le Fils par vous-même et remplacez le Père par le Fils. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez véritablement adorer Dieu, eh bien vous allez dire en vérité, moi je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que Jésus a fait. Et tout ce que Jésus a fait, je le fais aussi pareillement. C'est ça la véritable adoration. Jean 8 au verset 29 nous dit, Jésus nous dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et là encore, mon frère, ma sœur, si tu veux être un véritable adorateur, parle toi aussi de cette manière. Dieu est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Évidemment, on va tous dire, ouais, mais des fois, je n'ai pas fait ce qui lui était agréable. Eh bien, nous devons chercher ça. Jésus, dans Jean 15, alors je ne l'ai pas mis comme verset, mais il nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si mes paroles demeurent en vous, je demeure en vous. » Et si mes paroles demeurent en vous ne signifie pas connaître les paroles de Jésus. C'est les mettre en pratique, bien sûr. Et donc ainsi, 2 Corinthiens 5, verset 15 nous dit « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Aujourd'hui, la véritable adoration, c'est de vivre toute notre vie pour Jésus-Christ. Donc on a avant tout une adoration, l'adoration en esprit, c'est avant tout une adoration par la parole. Jésus est la parole qui a été faite chair. Jean 1, verset 14 « L'esprit vient dans le croyant afin d'y demeurer éternellement. » Jean 14, 16. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Donc, la parole, c'est Jésus. Jésus, c'est l'Esprit. Et l'Esprit est en moi. Adorer par l'Esprit, c'est adorer avec la parole et par la parole. Les choses spirituelles passent par la parole. Galates 4, verset 6 nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, l'adoration en esprit se fait avant tout par la parole, donc par des paroles de louange et d'adoration, des chants, des hymnes, des cantiques spirituels. Et j'y reviendrai après, la louange, ce n'est pas que les chants. Donc l'adoration en esprit, c'est bien sûr avoir mis sa foi en Jésus, dans sa personne, c'est le suivre, garder sa parole, obéir en tout temps à sa parole, et c'est l'adorer par sa parole, au travers de sa parole, pour ce qu'elle nous dit, pour tout ce qu'elle nous enseigne, tout, là où elle nous conduit, pour la paix du cœur qu'elle nous donne, etc. Et cela, on va le faire donc par nos paroles. On en verra des exemples concrets. Et donc le deuxième point, c'est que on a ensuite cette adoration en vérité, en esprit et en vérité. Et en vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette adoration intérieure, elle va prendre forme extérieurement. Je vous en donne quelques exemples dans Philippiens 2, au verset 17. Paul est en prison et il va dire ceci aux Philippiens: « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » La libation, vous voyez, c'est les termes de l'Ancien Testament. L'adoration dans l'Ancien Testament, il y avait parfois des libations. Eh bien lui, le fait qu'il soit en prison et qu'il ait été mis en prison à cause de sa foi, mais il dit, ben voilà, c'est une libation, mais c'est pour le service de votre foi qu'il m'arrive ces choses-là. Et ça, c'est une forme d'adoration. Philippiens 4 et verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Dans la Nouvelle Alliance, il y avait les Philistins qui ont envoyé des biens, de l'argent probablement, à Paul. Et il dit, mais ça, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Voilà encore une autre forme d'adoration. Vous voyez, si j'ai une adoration intérieure, elle prendra nécessairement une forme extérieure. Et donc, Hébreux 13, versets 15 et 16, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Là encore, cette adoration intérieure, elle se transforme en une adoration extérieure par le fruit de lèvres qui confesse son nom. Vous voyez, c'est ça la louange, confesser le nom de Jésus. Alors ça peut se faire par le chant, mais aussi ça peut se faire dans la confession. Je confesse à ma famille ma foi, je confesse à mes voisins ma foi, à des gens dans la rue, c'est une autre forme d'adoration. Et je vais également user de bienfaisance envers mes frères et mes sœurs dans la foi, venir en aide à mon frère qui est dans la difficulté, venir en aide à mon voisin, mon prochain, hein, c'est pas nécessairement uniquement les frères et sœurs. Hein. Un autre exemple, 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8 nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc là, cet exemple, il concerne, vous voyez, le temps dont je vous parlais. Tous ces versets nous parlent avec le langage de l'Ancienne Alliance, hein, sacrifice, bonne odeur, fête, libation, etc. Mais là, il nous dit, notre Pâque, c'est pas au printemps où on a la fête de Pâques, c'est pas ça. C'est Christ, notre Pâque. C'est lui, notre fête, et c'est lui qu'on célèbre. Et comment on le célèbre? Eh bien, Paul nous dit, non pas avec du levain de la méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et qu'est-ce qui doit être pur? Mais c'est notre cœur, bien entendu. Donc, je paraphrase Paul en disant, ça sert à rien de dire « Ah, merci Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore », si dans mon cœur, j'ai des pensées impures, si dans mon cœur, j'ai de la convoitise, si dans mon cœur, j'ai de la rancœur ou de la haine envers mon frère ou ma sœur, etc. Pour célébrer véritablement Christ, je dois avoir un cœur pur. Voilà ce qu'il veut nous dire. Donc, il n'y a plus un temps de Pâques, il y a Christ notre Pâques, voyez? C'est très très différent. Et donc enfin, Romains 12, verset 1er nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Là, en fait, pourquoi Paul ne nous dit pas d'offrir notre âme, d'offrir notre esprit, mais qu'il nous dit d'offrir nos corps? Bah parce que si j'offre mon corps, eh bien mon âme et mon esprit vont avec. Parce que je sache aujourd'hui, mon âme et mon esprit ne sont pas décorrélés de mon corps. Dieu ne veut pas ma voix, Dieu ne veut pas mon temps du dimanche matin, ou du samedi pour certaines dénominations. Dieu veut mon corps tout entier, toute ma personne, dans mes paroles et dans mes actes. Et si vous voulez quelques actes, eh bien je vous conseille de lire Romains 12 en entier, parce que Paul, par la suite, à la suite de ce verset que je viens de vous lire, nous donne tout un tas d'exemples d'actes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on va voir dans une seconde vidéo qui viendra demain comment l'immense majorité des églises actuellement reviennent à une adoration charnelle et comment s'en prémunir. Que le Seigneur vous bénisse.